RFI, 7h42, en temps universel, tout de suite les sports. Avec vous Antoine Grenier, du football et deux nouveaux entraîneurs en Ligue 1 ce week-end et baptême du feu pour Habib Bey.
L'ancien international sénégalais doit sauver Rennes, désormais barragiste, énorme défi pour ses débuts en Ligue 1 et il en est conscient.
J'ai travaillé et je me suis construit justement pour aller chercher le très haut niveau. J'estime que la Ligue 1 est le très très haut niveau, et notamment le Stade Rennais. J'ai pris le temps de travailler dans un club qui était en difficulté. J'ai eu des opportunités déjà pour entraîner sur des clubs qui étaient au niveau supérieur. Et il était important pour moi, par l'engagement que j'avais pris au départ et surtout la première opportunité que m'avait donné le président du Red Star, d'honorer ses objectifs, ses engagements-là et surtout d'aller au bout de ma mission et mes 3 ans de contrat. Et quand vous travaillez et que vous vous construisez dans le temps pour un jour aller au très très haut niveau, et je dois encore une fois montrer mes capacités et les compétences que je peux avoir. Parfois, les gens peuvent dire que j'ai un ego, mais la réalité, c'est que je suis allé en national, dans un club qui était 15e de national. On a mis les mains dans le cambouis, on a travaillé en équipe, comme on va le faire ici au Stade Rennais, avec justement de la confiance, et c'est ce qu'on veut donner aux joueurs aujourd'hui.
Habib Bey qui débutera sur le banc Rennais dimanche contre Strasbourg pour une 20e journée de Ligue 1 qui, elle, commence ce samedi avec 3 rencontres, Brest-Paris, Monaco, Auxerre et Lille-Saint-Etienne.
Marseille jouera demain, mais l'OM a déjà accueilli sa nouvelle recrue.
Venu de Rennes, Amine Gouiri, l'international algérien, a signé un contrat de 4 ans et demi, transfert estimé à 22 millions d'euros.
En tennis, les éliminatoires de la Coupe Davis 2025 et le Bénin se frottent au groupe 2.
Auquel le pays vient d'accéder, les Béninois démarrent ce samedi face à la Lettonie dans le cadre des play-offs. Premier à entrer en lice, Alexis Clégou, le vétéran béninois, 36 ans, affronte Robert Strombach, 407e mondial, non classé lui-même, Clégou sait qu'il n'aura pas la partie facile.
C'est moi-même qui rentre sur le terrain contre un joueur professionnel, actif. On espère tous ensemble et moi-même pouvoir gagner ce match, ce qui pourrait nous mettre sur de bonnes bases pour la suite de la compétition. Ils sont bons, mais beaucoup moins d'expérience. Et je pense qu'on peut vraiment faire la différence à ce moment-là. Je pense que c'est une rencontre qui est abordable. On a un bon groupe, on a de l'expérience, on est chez nous. Et ce sont des éléments qui sont importants pour pouvoir jouer, oui, une équipe qui est forte. Je pense que c'est un 50-50, mais nous avons nos atouts pour gagner cette rencontre. C'est un objectif possible, je pense qu'on peut le réaliser. Maintenant, c'est le terrain qui parle. On est tous mobilisés pour ça, on est là pour ça. Et puis, on va faire en sorte de pouvoir monter dans cette zone.
Alexis Clégou avec Théophile Aza. Le deuxième simple opposera Patrick Agbo-Panzo et Daniel Tens. Plusieurs autres nations africaines en lice, d'ailleurs, dans ce groupe 2. Le Zimbabwe reçoit le Maroc. Duel entre l'Afrique du Sud et le Nigeria à Pretoria, pendant que la Namibie accueille Hong Kong à Windhoek. Dans le groupe 1, le Togo se rend à New Delhi pour se mesurer à l'Inde, tandis que l'Égypte, elle, est à Athènes pour affronter la Grèce. Hier, la Tunisie et l'Ukraine se sont neutralisées. Hier, un partout, avant le double prévu ce samedi.
On termine avec les sports de combat, avec en MMA un nouveau choc organisé à Riyad, en Arabie Saoudite.
Le Nigérian Israël Adesanya, ancien champion chez les moins de 84 kilos, affronte le français Nassourdine Imavov. Imavov Adesanya, combat de l'UFC à suivre aux alentours de 20h temps universel.
Antoine Grenier, merci beaucoup. Bonjour Jean-Baptiste Placard.
Bonjour Julien Coquel-Rohen.
À son tour, Paul Biya s'est vu remettre cette semaine le rapport des chercheurs sur le rôle et l'engagement de la France contre les mouvements indépendantistes et d'opposition au Cameroun de 1945 à 1971. Emmanuel Macron peut-il, avec cette quête historique qu'il a initiée, espérer se rallier les opinions africaines ?
Cette initiative dénote un courage politique qui aurait pu lui valoir en effet l'indulgence d'une Afrique scrupuleuse sur les crimes et violences de l'ère coloniale. Mais certains héritiers politiques de Ruben Niobe contestent à la France le droit d'initier un tel projet, car pour eux, elle est le bourreau. Au-delà des réserves de certains Camerounais, c'est Emmanuel Macron lui-même qui altère l'impact de son initiative, comme avec l'Algérie, avec le Rwanda ou même le massacre de Tiaroy, chaque fois sans recevoir en retour la gratitude espérée. Probablement parce que nul ne comprend pourquoi certains, et par exemple pas Madagascar, où l'on a chiffré à près de 90 000 morts la répression de la révolte de 1947. Les courages parcellaires n'ont jamais remplacé une politique. Alors qu'il s'achemine vers la fin de son second mandat, rien ne laisse espérer qu'Emmanuel Macron aura les moyens d'engager et de faire aboutir d'autres initiatives similaires partout où la violence coloniale a laissé de vives rancœurs. Il s'est parfois contenté de faire plaisir à tel ou tel pouvoir dans quelques pays, oubliant de marquer son temps avec une politique valable pour tous. Il peut donc difficilement espérer voir l'histoire le retenir comme le président qui aura vidé les contentieux coloniaux de la France.
Il ne manquait pourtant pas de volonté vis-à-vis de l'Afrique.
Entre Emmanuel Macron et l'Afrique, ça aura été un perpétuel malentendu, avec certes quelques initiatives dont aucun de ses prédécesseurs n'avait eu le courage, mais par les insuffisances de sa méthode, lui-même anéantissait l'impact de ses mesures. Ainsi, de la restitution des œuvres d'art pillées à certains peuples durant la colonisation et dont quelques-uns attendent toujours leur part. Ainsi du démantèlement de gré ou de force des bases militaires, de la suppression du compte d'opération des banques centrales de la zone franc auprès du trésor français et de bien d'autres mesures courageuses inédites depuis la fin de la colonisation. Ces audaces éparses ne lui vaudront pas la sympathie des peuples africains tant qu'elles ne seront pas scellées par une politique claire et durable.
En somme, la France ne peut espérer la compréhension de la jeunesse africaine en traitant séparément la violence coloniale.
Tous les cas particuliers s'inscrivaient dans une politique globale. D'ailleurs, certains acteurs coloniaux, pour avoir fait la preuve de leur brutalité dans une colonie, étaient souvent envoyés sévir dans d'autres. L'histoire des peuples africains est bien trop imbriquée pour espérer la traiter efficacement en pièces détachées. Savez-vous, par exemple, que l'officier français qui orchestra le coup d'État qui a coûté la vie à Sylvanus Olympio en 1963 au Togo était auparavant un acteur central de la répression des maquis de l'UPC au Cameroun? Se rappelle-t-on que les soldats à l'origine de ce putsch sanglant revenaient d'Algérie après les accords d'Évian? Sait-on seulement que la rancœur de ces soldats venait du refus de Sylvanus Olympio de les intégrer dans l'embryon d'armée du Togo sous prétexte qu'ils étaient partis d'eux-mêmes s'enrôler volontairement dans l'armée française à Ouida, au Bénin, pour combattre les Algériens qui se battaient alors pour leur indépendance pendant que les Togolais, eux, luttaient pour leur propre indépendance? Chaque peuple aspire à comprendre les conditions déterminantes dans lesquelles s'est noué son destin. L'enjeu pour la France est d'inspirer durablement confiance à des peuples héréditairement dans le doute quant à sa sincérité. Cela suppose une politique qui ne varie pas au gré des circonstances et des rapports que le chef de l'État français peut entretenir avec tel ou tel de ses homologues. Bref, une politique qui survive au temps et aux hommes.
Merci Jean-Baptiste Placa. C'est un scrutin que l'Union européenne a qualifié de mascarade. Dimanche dernier, Alexandre Loukachenko a été réélu en Biélorussie pour un 7e mandat présidentiel consécutif. Il reste au pouvoir 30 ans après y être arrivé, alors qu'il y a 5 ans, son régime avait semblé vaciller face à la forte contestation des résultats de la précédente élection. Depuis cette mobilisation, Loukachenko s'est livré à une répression sans précédent qui a notamment touché les journalistes. Tous les médias indépendants du pays ont été fermés et plus de 40 journalistes sont derrière les barreaux. Parmi eux, l'ancienne rédactrice en chef du média Tout-Bail, Marina Zolotova, purge aujourd'hui une peine de 12 ans de prison. Son portrait dans Menace sur l'information, signé Anastasia Becchio.
Avec à sa tête Marina Zolotova, Tout-Bail était le plus grand média en ligne indépendant du pays. Estampillée extrémiste, elle a été fermée en août 2021. Alexandra Pouchkina y a travaillé. Elle est aujourd'hui membre du comité de direction du journal en ligne Zerkalo, successeur de Tout-Bail, dont les journalistes sont disséminés dans plusieurs pays européens.
Beaucoup de personnes avaient Tout-Bail en page d'accueil. Elles débutaient leur journée en lisant notre site, elles puisaient toutes les informations sur Tout-Bail et vérifiaient l'information grâce à Tout-Bail. On estimait que tant que ça n'avait pas été publié sur le site, l'information n'existait pas. Tout-Bail, c'était cette force qui permettait notamment de régler des problèmes dans le pays.
Marina Zolotova, 47 ans, purge sa lourde peine dans la colonie pour femmes de Gomel. Ses collègues ont de ses nouvelles grâce aux lettres qu'elle peut échanger avec sa famille, son mari, ses deux enfants exilés à Varsovie. Voici ce qu'elle disait de son métier à la Deutsche Welle avant son arrestation.
Nous avons fait notre choix lorsque nous avons décidé de faire du journalisme dans ce pays et de le faire comme nous le faisons, c'est-à-dire en rapportant honnêtement ce qui se passe dans le pays.
Marina Zolotova a été condamnée, tout comme la directrice de Tutbai, Lyudmila Chekina, pour incitation à la haine, appel à des actions visant à porter atteinte à la sécurité nationale, mais aussi évasion fiscale, des charges qualifiées d'absurdes par Reporters sans frontières. Olga Loïko était responsable éditoriale de la section politique et économique de Tutbai, placée sur la liste des personnes impliquées dans des activités terroristes. Après avoir passé 10 mois en détention provisoire, elle a ensuite fui le pays. Elle sera jugée par contumace pour les mêmes charges que son ancienne rédactrice en chef.
On savait qu'on était susceptible de se retrouver en prison, mais personne ne pensait qu'il y aurait des peines aussi lourdes. Dans la rédaction, c'était un sujet de plaisanterie, une sorte de psychothérapie sur le ton de l'ironie. On blaguait par exemple avec des interrogations du type « Mais qui va rester avec ton chat ?» On en discutait assez souvent parce qu'il y avait des arrestations. Mais d'un autre côté, Tutbai était quand même un média important, influent, où on s'efforçait de respecter les bonnes pratiques du journalisme. Donc on ne s'attendait pas à de telles condamnations. Et d'ailleurs, personne probablement ne s'y attendait.
S'il a gracié quelques prisonniers politiques l'an dernier, Alexandre Loukachenko a signifié lors d'une récente conférence de presse qu'il n'avait aucunement l'intention d'en faire de même pour les journalistes emprisonnés. Face aux arrestations arbitraires, aux perquisitions, aux fermetures de médias et aux violences exercées contre les journalistes, Reporters sans frontières a déposé plainte auprès de la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité.
Menace sur l'information avec Anastasia Becchio. Bientôt 8h en temps universel, RFI Matin touche à sa fin dans moins de 10 minutes. Mais d'abord un nouvel épisode d'Un mot, une histoire avec Lucie Bouteloup. On découvre chaque semaine un mot francophone à travers le témoignage des amoureux de la langue française.
L'exploration a été ma seconde nature, donc à la fois dans les livres, mais aussi dans la navigation puis les voyages. Au fond, je me suis toujours dit que le prof est celui qui apprend toujours.
Le mot dont il a choisi de nous parler est le moteur de son parcours. Il faut dire que l'homme est un touche-à-tout et ça lui réussit plutôt bien. Tour à tour chercheur et professeur d'économie, homme politique, grand voyageur, mais aussi auteur prolifique et académicien, Éric Orsenna ne s'interdit aucun domaine d'exploration, tant son appétit de découverte semble insatiable. Lauréat du prix Goncourt pour son roman « L'exposition coloniale », il vient de remporter le prix du roman de la nuit pour son dernier ouvrage, « La cinquième saison ».
Un mot, une histoire, Lucie Bouteloup.
Je vais vous parler du mot « curiosité ». Même si j'ai des difficultés à préférer, je crois que c'est le mot que je préfère. Parce que c'est justement le mot qui nous permet de ne pas préférer. Car « curiosité » vient du latin « cura », comme dans « cure », comme dans « curatif ». Donc la curiosité prend soin. Alors que l'indifférence, c'est le fait qu'on ne supporte pas la diversité. C'est-à-dire l'indifférent est celui qui ne voit pas de différence. Et donc celui qui s'en fout. Donc celui qui ricoche sur la vie sans la voir, celui qui ne prend pas plaisir, celui qui ne prend pas soin, comme dans cure, curatif. Et donc c'est pour ça que la curiosité m'a toujours absolument fasciné. Évidemment, ça vient de l'enfance. Parce que, d'après ce que me disaient mes parents, j'avais une tendance à poser la question « comment ça marche ?»« C'est quoi ça ?» et ne pas les lâcher avant d'avoir complètement compris. Et je crois que presque tous les 70 livres que j'ai écrits sont des livres de curiosité, c'est-à-dire pour apprendre. Moi, je suis un prof, hein. Je raconte pour comprendre, je raconte pour apprendre.
Est-ce qu'aujourd'hui, la définition qui est donnée dans le dictionnaire de l'Académie française pour le mot curiosité vous satisfait ?
Alors, elle est extrêmement large et il y a, une demi-douzaine d'acceptions. Alors, un goût qui porte à rechercher des objets d'art, des objets de curiosité, on dit ça. Deux, c'est passion, désir, empressement de voir, de découvrir, d'apprendre. Péjoratif, envie immodérée, grand désir de connaître les secrets, les affaires d'autrui, curiosité déplacée. Vous voyez, c'est formidable, il y a tout un peuple dans ce royaume de la curiosité.
Quelle est la dernière curiosité qui a éveillé votre intérêt ?
La dernière curiosité, c'est l'immunité. Je connais beaucoup de savants. Et donc ça, je trouve ça absolument formidable, parce que ça veut dire, encore une fois, la curiosité va permettre de curer c'est-à-dire de prendre soin d'eux.
Selon le dictionnaire Larousse, le mot « curiosité » désigne le désir de savoir, un caractère bizarre ou encore ce qui retient l'attention.
C'était un mot, une histoire.
Lucie Bouteloup avec Éric Orsenna, lauréat de la 8e édition du prix du roman de la nuit pour la dernière saison aux éditions de La Loupe. Bientôt 8h en temps universel, dans 3 minutes le journal et la fin des RFI matin. D'abord un peu de musique avec le DJ français Fat Babs et le Jamaïcain Jalil, star montante du reggae. Le titre End of War dans la sélection du mois des RFI. Jalil, End of War dans la sélection du mois des RFI que vous retrouvez sur musique.rfi.fr. Voilà, c'est ainsi que se termine cette édition des RFI matin. On se retrouve demain dès 5h, temps universel, et d'ici là, bien sûr, l'info continue. Très bonne journée sur la radio du monde.
Tout à l'heure sur RFI, écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
L'Allemagne, première économie de la zone euro, est plongée dans une crise profonde. Confrontée à une panne de croissance, à une activité au ralenti, les patrons sont en colère à quelques semaines d'élections indécises. Nous analyserons les raisons de ce marasme et les conséquences pour l'ensemble du continent.
Écho d'ici, écho d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
L'information continue sur la chaîne WhatsApp de RFI.
Chaque jour, vous pouvez retrouver directement sur votre téléphone les principaux titres de l'actualité internationale et les analyses de RFI, ainsi qu'une sélection de nos émissions. Pour nous suivre, c'est simple. Allez sur l'onglet « Actu » de votre application, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez la communauté WhatsApp de RFI.
RFI sur WhatsApp, l'actualité autrement, l'information quand vous voulez.